depuis le début de cette semaine. Et puis on vous présentera le spectacle de ce soir à Marvejols à 20h30, qui sera donc le prochain rendez-vous grand public ouvert à tous. On t'entend pas, Nico. Donc il y a un petit souci technique, mais c'est pas grave. Voilà. Et on aura une deuxième partie autour du prix Émile Lanzmann et donc de l'œuvre du Sable dans les yeux qui a reçu ce prix cette année. Donc voilà, Bénédicte Couga qui a eu ce prix et autour de la table avec Émile Lanzmann. Et puis nous aurons une troisième partie de débat avec des compagnies, avec des diffuseurs, pour parler un petit peu de ce qui fait tout l'intérêt de cette manifestation, l'aspect éducatif du spectacle jeune public, et puis finalement les rencontres qui se nouent au cours de cette semaine. Voilà, donc c'est le programme de cette émission.
Donc on va commencer cette émission par un petit rappel, mais vraiment succinct. Demain, on approfondira un peu plus ce qui s'est passé toute cette semaine. Un petit rappel de ce qui s'est passé pendant ces 2-3 jours, avec un petit son d'ambiance pris sur le live au Théâtre de Mende, au Foyer Saint-Ilpide, un peu partout. Voilà, Guillaume, je te laisse lancer ce son.
C'est un petit son que Ludovic nous a préparé. C'est parti.
Moi, j'aimais qu'on faisait le ballon.
Et moi, qu'on aussi dormait.
Chacun construit sa petite histoire. Il y en a une, mais il y en a plusieurs aussi. Quand on interviewe les enfants, on se rend compte que chacun y voit ce qu'il veut, et c'est ça aussi l'idée.
Moi, des fois, je fais un bouquet de fleurs quand c'est pas le printemps, mais moi, j'arrive pas à trouver des fleurs, et des fleurs sèches.
On aime bien puiser dans la tradition des contes classiques, des versions moins connues.
C'est l'histoire d'une petite fille qui aimait beaucoup manger les pâtes. Et tous les jours, elle demandait à sa maman: Mamma, per favore, oggi mi fai un bel piatto di spaghetti, per favore, grande così, dai, bambina, calma.
La compagnie travaille auprès de ce public par conviction. C'est autant d'émotions que pour un spectacle d'adulte.
On aime beaucoup voir les réactions des enfants, en fait. Et on aime bien travailler avec l'imaginaire. Nous, on n'a pas de décor. Ce qu'on aime bien, c'est voir les enfants, quand ils sortent de la séance, qui nous disent « Ah, c'était bien quand tu t'es déguisé en loup ». Nous, on n'a pas de déguisement, donc tout est dans leur imaginaire. C'est ça qui est la richesse du conte. Ça fait travailler la tête.
Qui va à la plage, qui va à la piscine parce que c'est ma maman qui l'a dit.
Et sur l'ensemble des choses, on a eu l'occasion de découvrir vraiment des formes très très variées pour des âges très différents, entre de la danse, du conte, des choses peut-être un peu plus nostalgiques sur le thème de la solitude lundi, mardi. Et puis on a eu l'occasion plutôt de rire sur des formes un peu plus déjantées, entre guillemets, hier soir.
Surtout de pouvoir en discuter après les spectacles, échanger les avis, voir ce à quoi on a pu échapper éventuellement pendant le spectacle. C'est très intéressant.
On a tous des sensibilités différentes, des coups de cœur, des choses qu'on a moins aimées, mais en général, c'est toujours des choses avec une vraie proposition, un vrai contenu artistique.
Voilà pour ce retour sur ces 2-3 jours. Adrien, tu es étudiant à l'IUP, tu es allé voir certains spectacles, dont IQ Malédiction, également Un sourire qui mord. Donc explique-nous toi un peu comment tu as ressenti ces 2-3 premiers jours et ces spectacles que tu es allé voir.
Alors je suis étudiant de l'IUP à Mende. Et donc j'assiste au spectacle, donc entre autres Haïku, Malédiction et Un sourire qui mord. Donc pour commencer par exemple avec Haïku, un spectacle de la compagnie Papyrus, une compagnie belge. J'ai vraiment bien aimé dès l'entrée, la mise dans l'ambiance. On se sent vraiment, on s'y croit, on est là, c'est dans le noir, un peu calfeutré, et on traverse ce couloir et on entre vraiment dans un château. Et c'est là que va se dérouler l'histoire. Donc l'histoire d'un petit bonhomme, Bozo, qui se sent un peu seul. Et toute cette histoire contée par un vieux monsieur, accompagné de son valet et de sa bonne. Donc voilà, un gros travail très ingénieux et un sens du détail que j'ai vraiment apprécié. Donc, entre autres, un piano qui joue tout seul, ou voilà, un château de glace, un château de sable.
Un vrai château de glace.
Un vrai château de glace.
Qui fond.
Et qui fond en plus de ça. Pour Malédiction, donc Duda Paiva, la compagnie Duda Paiva, donc des Pays-Bas. Donc j'ai vraiment bien apprécié cet univers déjanté et complètement fou. On se plonge vraiment dans une histoire décalée. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai vu dans ce spectacle. Donc ce sont deux chirurgiens qui font un tas d'expériences sur une créature verte et aussi sur un chien qui apparaît à un moment. Donc des chorégraphies, beaucoup de jeux de lumière, une ambiance sonore vraiment saisissante, et j'ai bien aimé ce spectacle aussi.
Voilà, une compagnie belge, une compagnie des Pays-Bas. Il faut rappeler qu'il y a vraiment des compagnies qui viennent de l'étranger, Nico. C'était un choix décidé à l'avance.
Oui, tout à fait. Le groupe national, en fait, a décidé cette année. C'est un peu le hasard, hein, Jean-Noël. C'est dans la sélection, en fait, seront montées comme ça sept compagnies qui viennent du Portugal, Pays-Bas, Belgique. Italie, oui, avec deux compagnies italiennes, l'Ogre Déchu qu'on n'a pas vu, et puis Une Tasse de Mer dans la Tempête.
Et la compagnie Huile d'Olive et Beurre Salé qu'on a entendu dans Le Petit Son avec Deborah Di Giglio, qui est également italienne.
Et Fabienne Morel.
Que nous aurons dans la seconde partie.
Qui est à moitié, puisque Deborah est italienne et puis Fabienne Morel est bretonne. Voilà.
C'est ça.
D'où le nom Huile d'Olive et Beurre Salé.
Exactement. Un sourire qui mord également, Adrien.
Alors oui, Un sourire qui mord. Donc j'ai choisi de parler de ce spectacle parce que ça a vraiment changé par rapport à tout ce que j'avais pu voir avant. Donc là, c'était de la danse contemporaine. Donc même moi, je n'ai pas souvent l'habitude d'aller voir des spectacles de danse. Et j'ai vraiment apprécié en fait ces deux danseuses qui nous racontent vraiment une histoire simplement avec leur corps et des objets. Donc il n'y a pas de parole. Et donc voilà, une histoire. Au début, c'est un peu de la compétition, on peut sentir de la jalousie qui est la plus forte de nous deux. Et ensuite, il y a une espèce de lien d'amitié qui se crée entre ces deux personnes. Et j'ai vraiment trouvé ce spectacle beau, oui, aussi dans ses bandes sonores. Et voilà.
C'est ce que m'ont dit les diffuseurs quand je les ai interviewés durant ces deux jours, qu'ils avaient vu des spectacles vraiment éclectiques, qui faisaient appel à la nostalgie, plus drôles, des spectacles pour petites scènes, pour plus grandes scènes. Cet éclectisme ressort au niveau des avis des diffuseurs.
Ben, c'est une volonté aussi de faire ça. C'est-à-dire qu'on prend en compte aussi les conditions de tournée sur le plan national. Le réseau de la Ligue, c'est beaucoup de petites salles et aussi beaucoup de petits lieux qui ne sont pas des salles de spectacle. Donc l'idée, c'est pas de prendre des grosses formes qui vont sur des scènes nationales, qui n'ont pas besoin de nous d'ailleurs pour tourner. C'est plutôt de prendre des petites formes et des formes tout court, voilà, qui vont s'adapter et qui vont utiliser des espaces. Alors bien sûr, il y a des moyens techniques importants à mettre en œuvre de temps en temps, mais souvent ces compagnies sont en partie autonomes et peuvent être jouées un petit peu partout. C'est aussi une des clés de notre sélection. Alors, il n'y a pas que cette clé-là, il y a aussi le coût, puisque réseau qui aussi est un réseau quand même à majorité milieu rural, donc qui va un petit peu partout sur tout le territoire et qui n'a pas forcément énormément de moyens financiers des collectivités locales et de l'État pour fonctionner et puis pour pouvoir diffuser. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une alchimie entre les coups de cœur, le langage, les formes, l'éclectisme des formes dont tu as parlé, et puis les conditions techniques d'accueil. Voilà.
Alors la semaine continue, hein, puisque ce soir donc on sera à Marvejols pour la suite de cette semaine spectacle recommandé. On va demander à Jean-Noël de nous mettre en appétit pour ce soir et puis éventuellement inviter nos auditeurs à rejoindre ce soir la salle polyvalente de Marvejols. C'est à 20h30 et ça coûte toujours 5 €, c'est ça, hein?
Toujours 5 € pour tout public, famille, enfants, voilà.
Oui, je veux bien dire un mot, mais je compte sur Émile pour compléter, parce que je ne sais pas quoi dire de ce spectacle. C'est pas très racontable, c'est juste quelque chose de délicieux, une comédie musicale, un peu jazzy, oui, disons jazzy, par quatre superbes comédiennes chanteuses et pour poulailler. On va le dire comme ça, ce sont quatre volailles, mais qui se posent plein de questions essentielles. Est-ce qu'on a le droit de s'affranchir de sa condition de poule dans un poulailler? Est-ce qu'on a le droit de désobéir au coq, par exemple? Une petite question, pas si anecdotique que ça. Qu'est-ce que t'en penses, Émile, hein?
Moi, je pense que c'est un projet à la fois ludique et qui brasse pas mal de choses, comme tu viens de le dire. C'est ce qui est intéressant dans les spectacles qu'on a vus et dans ce qu'on verra aussi ce soir, c'est la cohérence du projet, c'est-à-dire c'est le musical de qualité, c'est effectivement le rire, mais aussi avec un fond social qui est intéressant. Et donc c'est un mélange. C'est d'abord un spectacle de plaisir, mais on n'en sort pas tout à fait sans idée dans la tête après coup, quoi.
Oui, on y évoque aussi le monde du travail, l'exploitation. Absolument. Deux, trois petites bricoles comme ça.
Oui, c'est bien fait, surtout, il faut le dire. Parce que souvent, on entend chanter dans les spectacles, le jeune public, on se pose quelques questions. Ici, c'est polyphonique, enfin, c'est très intéressant.
Et bon, on va découvrir ça donc à 20h30 à la salle polyvalente de Marvejols. 5 € à partir de 6 ans, d'après mes fiches, vous confirmez? Voilà. Donc, soyez au rendez-vous à Marvejols. On va passer une petite pause musicale avec Dionysos, Song for a Jedi.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je mêlais.
FM Théma.
Une émission de 48 FM qui vous laisse la parole.
Écoutez l'essentiel, écoutez-vous
sur 48 FM.
Et c'est la deuxième partie de cette émission en direct du foyer Saint-Ulpide. pour dans le cadre de donc émission radio recommandée, dans le cadre de spectacle recommandé, événement national de la Ligue de l'enseignement qui est accueilli cette semaine à Mende. Alors vous entendez peut-être un petit peu de bruit derrière nous, puisque nous sommes en public pour cette émission et qu'il y a pas mal de gens qui sont là, qui débattent aussi de ce point sur les spectacles que nous avons vus, voilà, qui réagissent. Tout ça. Donc deuxième partie de cette émission consacrée à ce qui va se passer demain finalement avec un événement autour du prix Lanzmann et donc de l'œuvre qui a été récompensée cette année, du sable dans les yeux, avec une longue lecture qui sera proposée demain. Hein. C'est un peu aussi, c'est assez surprenant d'avoir vraiment de prendre autant de temps pour la lecture d'un texte comme ça. Je pense qu'il va être lu complètement finalement. Voilà, donc souvent on lit peut-être des petits bouts, enfin, ou des œuvres beaucoup plus courtes, mais là voilà, ça sera un grand événement donc demain. Alors ben, on accueille Émile Lanzmann qui est responsable de ce prix finalement, et puis Bénédicte Kouka, la lauréate de cette année. Voilà. Alors peut-être Émile Lanzmann, pouvez-vous nous présenter un petit peu le prix, pourquoi ce prix, qu'est-ce qui récompense?
Voilà. Oui, mais ça démarre sur une note un peu tragique, puisque j'ai créé cette maison d'édition uniquement consacrée au théâtre en 89, et mon épouse m'a accompagné jusqu'en 2005. En 2005, elle est morte à 45 ans, et donc tous les amis, tous ceux qui entouraient la maison d'édition ont le jour même décidé qu'on créerait un prix. On ne savait pas trop au début ce que ce serait. On en avait dit que ce serait sans doute un prix de consécration. On mettrait remettrait le prix à quelqu'un qui était particulièrement méritant dans cette écriture. Et puis on s'est dit qu'on pouvait absolument faire la liste tout de suite des 10 premiers lauréats, puisque ce serait les mêmes noms. Donc on a voulu changer l'optique. On a mis 3 ans à réfléchir sur ce qu'on voulait. Et on s'est dit que finalement, il y a très très peu d'auteurs dramatiques dans le monde francophone qui écrivent du théâtre jeune public comme ça, dans l'absolu, dans leur chambre. La plupart des textes qui naissent en jeune public sont des textes qui entourent une compagnie, soit parce que c'est une commande, parce que c'est un auteur qui est attaché à une compagnie, parce que c'est une compagnie elle-même qui fait une création collective. Et on se dit, mais il y a des auteurs qui doivent avoir des textes dans les tiroirs. Donc on a lancé un appel en disant, si vous avez un texte qui répond à 2 critères, un, qui puisse constituer un bon spectacle pour des jeunes de moins de 13 ans, et deuxième autre critère qui nous tient fort à cœur, un texte qui participe au plaisir de lire le théâtre aussi dès l'école primaire, vous nous l'envoyez, puis on verra ce qu'on en fait. Ça a été un succès immédiat, et on a reçu la première année, je pense, une quarantaine de textes, et anonyme, c'est-à-dire on ne connaissait pas les auteurs, pas le nom, absolument, je peux vous garantir que c'est comme ça. Et l'auteur qui est sorti lauréate est une Québécoise qui était relativement connue, mais pas dans le domaine du jeune public, Geneviève Billette. On a relancé l'opération qui va maintenant se dérouler tous les 2 ans, et cette année on a eu la surprise de découvrir, et on va évidemment en parler avec elle, mais que la lauréate était une auteure qui n'avait jamais écrit du théâtre pour le jeune public, mais du théâtre tout court. Alors ça, c'est la première partie de l'explication. La deuxième partie de l'explication, c'est que évidemment on n'a pas voulu faire ça tout seul dans notre coin. On a demandé à des institutions si elles étaient d'accord de nous accompagner dans ce projet. Donc on a eu pour les 2 éditions d'ailleurs 23 partenaires en France, en Belgique, au Québec et aussi en Guyane pour la dernière opération. Et l'obligation entre guillemets morale des partenaires, c'est 2 choses. D'une part, de voter, c'est-à-dire de participer à l'élection du prix, avec une formule un peu particulière où chacun a le même nombre de points, quoi qu'il représente. Et à l'intérieur de chaque partenaire, il y a des jurys qui se mettent en place, il y a des comités de lecture qui se mettent en place, et donc ça peut être 3 ou 4 personnes, mais ça peut être 40 personnes, comme autour d'un festival comme Mélimôme, par exemple, mais pour la Ligue de l'enseignement aussi. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que la Ligue de l'enseignement a été partenaire depuis le début de ce projet, notamment par des liens d'amitié qui m'unissent à Jean-Noël Matré, qui connaissait mon épouse aussi. Et donc, deuxième obligation des partenaires, c'est de donner une visibilité à l'auteur et au texte lauréat, et on y est, puisque cette visibilité, c'est la lecture qui aura lieu demain.
Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte du sable dans les yeux ?
Ben, je représentais, moi, une voix sur 141 exactement. Mais ce qui nous a intéressé, c'est d'abord qu'il répondait tout à fait aux deux critères. Il est plus difficile d'enthousiasmer des lecteurs adultes quand on s'adresse aux adolescents, les théories, ce qu'on défend, les idées, les conflits, et tout ça. C'est plus porteur que des textes qui s'adressent à des jeunes de 8, 9, 10, 11 ans. Et donc, on avait finalement relativement peu de textes qui répondaient tout à fait à ce critère, et dans les textes qui sont restés dans le dernier carré, ben, il y en avait trois qui étaient vraiment à la limite des 12-13 ans. Donc pour moi, c'était un critère important. Le deuxième, c'est que, sans savoir que cet auteur n'avait jamais rien écrit, on sentait chez elle une spontanéité qui réinventait un certain nombre de règles ou de non-règles de l'écriture dramatique, et ça nous touchait parce qu'on sentait qu'elle n'était pas dans un moule. Ce texte est difficile à monter, ce texte se permet des choses qu'un auteur qui travaille pour une compagnie bien connue ne se permettrait pas, parce qu'il se dirait « Oulala, je vais avoir le metteur en scène sur le dos, il ne saura jamais comment je vais faire ça ». Je veux dire, c'est comme un auteur qui écrit « Le tigre entre et mange le dompteur », le metteur en scène se débrouille avec ça. Mais ici, on n'en est pas là, mais quand même, on a une grosse difficulté de mise en scène. Donc ça, ce sont des critères. Et puis, je pense que c'est la fraîcheur de cette écriture aussi qui nous a beaucoup... C'est un mot qui est revenu régulièrement. Une fraîcheur d'écriture, on sentait que c'est quelqu'un qui n'était pas un vieux routard. En tout cas, ça, c'était très clair de l'écriture dramatique pour les enfants.
Alors, Bénédicte Kouka, que des éloges.
Ah oui, que des éloges.
Comment on en vient à écrire et à se dire « je vais écrire du théâtre pour du jeune public », ça me paraît étrange.
Ça paraît étrange, mais en fait, c'est pas si étrange que ça, parce que j'ai travaillé 22 ans en école primaire, avec une tranche d'âge qui correspond en fait à la tranche d'âge des possibles lecteurs de ce livre, donc avec des enfants de 8, 9, 10 ans. Et j'ai écrit avec eux, en fait, beaucoup de contes musicaux pour la scène. Et j'en suis venue, en fait, au théâtre grâce à la réforme de 2002 dans l'éducation nationale. On nous a proposé une liste, en fait, d'œuvres littéraires. Il y avait du théâtre dedans et j'ai commencé à lire le théâtre comme ça, avec les enfants, toujours de mes classes.
Alors, qu'est-ce que évoque ce texte ? De quoi parle-t-il ?
Alors, ce texte parle... D'abord, le titre, Le sable dans les yeux. Au départ, c'était le syndrome sec, qui correspond à une maladie qui existe, où les gens, en fait, n'ont plus... Les glandes lacrymales ne fonctionnent plus correctement, et les larmes n'existent plus, et ce qui fait qu'ils ne peuvent plus jamais pleurer. Et moi, j'avais envie de parler, en fait, du chagrin, et de la perte, mais vraiment la perte difficile. Donc je suis partie de la perte physique et la perte d'un être cher. Donc tout tourne en fait autour de la perte et du chagrin et comment en fait les gens peuvent l'exprimer. Sur un ton de fraîcheur et de légèreté, comme le disait Émile Lanzmann. C'est pas un truc qui va plomber non plus, voilà.
Et alors, qu'est-ce qui donne envie de proposer son œuvre dans le cadre d'un prix ? Est-ce que c'est vous qui avez fait cette démarche ou c'est,
ah bah
c'est
comme moi, je me suis mise à lire du théâtre en fait, donc je connaissais quelques éditeurs, donc des éditions Lanzmann, et puis en tapotant sur internet, j'ai vu qu'il y avait un prix qui existait. Et donc je me suis dit, ben, j'ai un texte qui est là, je vais le proposer. Et puis, voilà, je l'ai proposé et puis j'arrive là, voilà. En Lozère aujourd'hui, voilà, avec Émile à mes côtés.
Une lecture en public comme ça, vous y êtes habitué, c'est une nouveauté pour vous ?
Alors, il y a eu plusieurs lectures qui ont eu lieu. La compagnie qui vient demain, en fait, a lu déjà le texte lors de la remise du prix. Il y a juste une comédienne qui n'est pas là, mais sinon j'ai déjà entendu cette lecture. J'ai assisté à des mises en espace aussi, au TNG, à Lyon. Donc j'ai dû entendre trois lectures et une mise en espace. Donc des choses complètement différentes, avec des metteurs en scène complètement différents. Moi, je suis preneuse de tout. En fait, je suis très enthousiaste pour tout, puisque c'est tout nouveau. Donc je suis contente, ravie, voilà.
Alors, aussi pour dire qu'on s'est posé la question au groupe national de comment allait se passer cette lecture. Est-ce qu'on faisait appel à une compagnie amateur locale ? Et en fait, pour honorer ce prix, on s'est dit que c'était compliqué de demander à une compagnie locale, amateur, d'interpréter un texte qui est, comme l'a dit Émile, peut-être un peu compliqué, un peu difficile. Et donc, on a fait appel, mais Jean-Noël va en parler un petit peu, à une compagnie belge aussi.
Oui, il y a pas de hasard, hein. Il y a la famille là autour, c'est la compagnie qui a lu pour la remise du prix à Bénédicte, mais il se trouve aussi que c'est une compagnie dont on a pu apprécier le travail à travers un autre spectacle qu'on a découvert cet été en Belgique qui s'appelle Toute Seule, avec une comédienne prodigieuse, même si elle ne sera pas là demain. Et le sérieux du travail de cette compagnie nous a convaincus que c'est à eux qu'il fallait décider de venir. On a beaucoup insisté d'ailleurs, parce que l'enjeu de venir juste pour une lecture depuis Bruxelles est quand même pas complètement évident. Voilà, et on s'est dit non, puis on met les petits plats dans les grands, on fait une lecture, on prend le temps avec Émile et Bénédicte de parler de ce texte-là tous ensemble pendant une heure et demie après. Voilà.
Oui, c'est aussi de mettre la barre assez haute, c'est-à-dire pas de se dire bon, c'est un texte, on va juste le lire, quoi. Un texte, c'est déjà le début, le commencement d'une histoire, d'une interprétation, d'une mise en scène, d'une œuvre en tant que telle. Et donc, il faut faire appel aux professionnels pour que cette œuvre existe. Et quand on montre, quand quelqu'un passe du temps à écrire, la meilleure façon de l'honorer, c'est bien de mettre tout ce qui est en nos pouvoirs pour faire en sorte que cette œuvre soit la plus belle possible. En tout cas, donner de la meilleure façon possible.
Monsieur Lanzmann, vous voulez intervenir?
Oui, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est pas simplement publier un livre, le mettre dans une armoire et puis c'est tout. Cette opération, s'il y a autant de partenaires, évidemment, c'est une astuce, mais dont ils ne sont pas dupes, pour que cette œuvre ait une chance extraordinaire d'être créée, d'être connue, que l'auteur tourne. C'est pas de tourpeau, d'être lauréat de ce prix pendant un an. Ben, elle est sollicitée un peu partout, par les partenaires, mais par d'autres. Mais on peut déjà annoncer qu'il y a un projet de création en France qui est en train de se dessiner, et pas dans un petit lieu. Ça reste encore aujourd'hui confidentiel. Mais si on prend le prix précédent, donc il y a deux ans, oui, presque trois maintenant, il y a eu une création au Québec, il y a eu une création en Suisse qui a démarré. Il va y avoir une création en France. Le texte est déjà traduit en quatre langues. Ici, on a une traduction en italien qui est en train de se faire. Donc, c'est vraiment un prix qui, au-delà de la bourse, au-delà de l'édition, au-delà de la résidence, ouvre des portes. Après, c'est à l'auteur d'en profiter ou pas, parce qu'on peut aussi tomber sur un auteur qui n'a aucun charisme, qui ne partage rien, mais c'est pas le cas avec Bénédicte.
Bon, en tout cas, il faut dire aussi que la Ligue de l'Enseignement joue le jeu en mettant à disposition de tous les diffuseurs présents dans leur petit sac d'accueil ce texte qui leur est offert. C'est pas anodin. Si le groupe national décide de faire ça, c'est aussi bien que les diffuseurs puissent s'emparer d'un certain nombre de textes d'œuvres contemporaines écrites par des gens qui sont là avec nous ce soir, et aussi pour qu'ils puissent faire ce relais avec des artistes, alors des artistes locaux, des artistes avec qui ils travaillent tout au long de l'année, et qu'ils puissent leur proposer aussi des textes pour que ces œuvres soient montées sur les territoires. Puisque c'est quand même, faut pas attendre non plus que la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon fasse tout le boulot. Même s'ils font un super boulot et qu'on est content de travailler avec eux, c'est aussi à chacun de s'approprier ses œuvres, de lire et de faire véhiculer. Parce qu'un livre, c'est bien sur une étagère, mais s'il n'est pas lu, ça ne sert pas à grand-chose.
Et donc j'imagine que le livre est aussi... On peut commander ce livre chez son libraire sans problème.
Oui, absolument. C'est aussi un début par rapport aux deux objectifs. C'est que les classes s'accaparent de ce livre et lisent l'histoire, se fassent dans la tête le théâtre. Et je pense que là, c'est gagné. Il y a pas mal de livres déjà qui sont faits des conditions tout à fait particulières pour les classes, pour favoriser le plaisir de lire le théâtre.
Bon, ben voilà, une belle opération. Donc, la lecture a lieu demain. Et puis, ben, peut-être qu'on le découvrira dans une prochaine programmation, peut-être en Lozère, le texte.
Alors, le texte, il va être aussi mis, en tout cas, sur la Lozère. On va essayer de le faire tourner avec la bibliothèque départementale de Pré, plus la bibliothèque municipale, le faire lire aux enseignants, en tout cas, le proposer. Il est aussi mentionné dans le... sur le site internet de spectacles recommandés avec d'autres ouvrages. Donc on conseille à tous les diffuseurs et les programmateurs qui nous écoutent, et puis aussi aux enseignants, d'aller sur ce site et de pouvoir aussi directement le commander sur les éditions, puisqu'il y a un lien pour pouvoir le faire.
Alors on vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission, et puis bonne suite pour ce livre et pour cette traduction en création.
Bonne chance pour la suite.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et on va tout de suite faire une deuxième pause musicale avec Eyou de Pony Pony Run Run. Take my time today, it's not an easy game. Many seem to be seen if you say so, it's not easy baby. Crossing lines, don't let me feel this way. Reaching my eyes, so sorry.
FM Théma.
Tute FM Théma.
Une émission de 48 FM qui vous laisse la parole.
Écoutez l'essentiel, écoutez-vous.
Sur 48 FM.
Troisième partie de cette émission spéciale radio recommandée en direct du foyer Saint-Ilpide à l'occasion de cette manifestation nationale de la Ligue de l'enseignement, spectacle en recommandé. Et alors on a une table qui est beaucoup trop petite pour le nombre d'invités. Hein, on va essayer de se
victime de notre succès.
On va essayer de partager les micros pour cette.
Le premier qui dit n'importe quoi, il est viré. Attention à huile d'olive. Beurre salé, on sait que elle est droite, elle déconne pas, mais huile d'olive, on sait pas.
Déjà, rien que le nom te met en appétit.
Alors, déjà, on va peut-être présenter les personnes qui sont autour de la table. Alors, nous avons Philippe Urbain de la Ligue de l'enseignement des Vosges, et puis après, nous avons trois compagnies qui sont autour de la table. La compagnie Ekphrasis, c'est ça ? C'est bon, j'ai bien fait. La compagnie, donc, huile d'olive et beurre salé, et la compagnie Papyrus. C'est bon, j'ai oublié personne ?
Ah, je crois pas.
Bon, tout va bien. Alors, le sujet finalement de cette troisième partie, c'est peut-être de nous dire qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici et qu'est-ce que vous y trouvez. Voilà, peut-être un petit tour de table autour de ça. Donc, à la fois, effectivement, dans la rencontre diffuseur et finalement compagnie, mais aussi peut-être autour de ce qui fait votre action au niveau du spectacle jeune public. Alors je sais pas.
Déborah, je crois qu'elle va répondre à la question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ?
Moi, je suis venu pour le cochon. D'abord.
Le cochon. Lequel ?
Celui que vous avez tué.
Des noms, Déborah.
De vous.
Ça commence bien. Hein, ça...
C'est bon, je suis.
Elle nous met en appétit, hein ? Non, peut-être quelques contrats quand même. En tout cas, des rencontres et puis. Peut-être une autre façon aussi de montrer le travail que vous faites, hein, Déborah.
Toujours moi.
Oui, toujours toi. Ouais.
On vient pour chercher du travail. C'est pour l'emploi du spectacle.
Voilà, c'est un petit peu ça.
On vient, oui, pour présenter notre spectacle. Voilà.
Et est-ce qu'on s'adresse différemment à des programmateurs qu'à des enfants ou au final, non, on joue son spectacle comme on sait le jouer et
on a demandé qu'il y ait des enfants dans la salle.
Qui ont répondu présent ce matin d'ailleurs.
Ouais. Et du coup, ça nous permet aussi de s'adresser aux adultes qui sont dans la salle. Comme il y a des enfants, on s'adresse aussi aux adultes comme s'ils étaient des enfants. Mais on joue aussi un taux public ce spectacle. Donc on a l'habitude de. Adultes et enfants.
Alors c'est un spectacle avec des contes revisités, enfin des contes moins connus que ceux que nous connaissons, nous, enfants, français. Racontez-nous un peu ce que vous êtes venu présenter.
C'est des versions. Nous, ce qu'on fait avec Fabienne, c'est qu'on cherche des versions moins connues de contes classiques qui viennent soit d'Italie, soit de Bretagne.
Des versions traditionnelles. C'est vraiment des contes qui ont circulé de bouche à oreille depuis il y a des centaines d'années. Et nous, on se les réapproprie, on se fait une écriture.
Une petite impro, peut-être.
Voilà.
Une petite impro, ouais.
Là,
allez.
Une impro de quoi ?
Ouais.
Un conte ?
D'un conte, ouais.
Mémé ! J'improvise, moi.
T'as un extrait de son effet ce matin ? Un petit extrait ?
À quel endroit ?
Elles n'étaient pas prévenues. Hein, donc,
ça,
c'est ça, direct. Voilà, c'est ça. On en profite.
Mémé. Oui. Pourquoi t'as du poil aux mains?
Tu trouves?
Mais j'ai du poil aux mains parce que j'ai mis trop de bagues quand j'étais jeune.
Ah. Mémé.
Oui.
Pourquoi t'as du poil aux pieds?
Mais j'ai du poil aux pieds parce que j'ai mis trop de chaussures à talons aiguilles quand j'étais jeune.
Mémé.
Oui, quoi encore?
Pourquoi t'as du poil à la poitrine?
J'ai du poil à la poitrine parce que j'ai mis trop de colliers quand j'étais jeune. Voilà pourquoi. Maintenant, ça suffit. Il est l'heure de dormir. Allez, on dort. Ferme les yeux.
Merci beaucoup pour cette impro.
Voilà, c'est ça aussi le spectacle vivant, c'est pris sur le vif, c'est du direct. On ne vous ment pas, cette radio. Hein.
Peut-être laisser la parole à une autre compagnie qui est autour de la table à... pour ce
oui,
spectacle Kant.
Surtout que c'est un peu le même texte. Puisqu'il est question d'un papa qui demande, qui dit à son petit garçon qu'il est l'heure de dormir.
Mais ceci dit, c'est pas vrai parce que dans l'histoire du géant, qui est l'enfant qui est dans le rêve du géant, tu sais, ça fait partie, je pense, de la cosmogonie des mythologies.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, d'ailleurs,
on est dans le même univers.
C'est aussi un conte.
Alors, c'est un conte de qui ?
C'est un conte d'un auteur norvégien qui s'appelle Jon Fosse, qui est un auteur dramatique. Mondialement connu, qui écrit du théâtre pour les grandes personnes et aussi des histoires pour les enfants.
Alors c'est un spectacle qui est seul en scène, c'est ça ?
Un comédien seul en scène qui joue un petit garçon de 8 ans qui se pose des grandes questions métaphysiques sur l'infini. Est-ce que l'infini a un bord ? Est-ce que l'infini a une fin ou pas de fin ?
Pourquoi on choisit un texte comme ça, qui paraît quand même assez difficile, un texte avec un contexte philosophique qui ne s'adresse pas forcément à du jeune public? On pense à, voilà, à l'infini quand on est plus grand, non ? Vous avez le sentiment que les enfants pensent comme ça à l'univers, on parle du minuscule et du géant, du micro et du macro. Vous avez l'impression que les enfants se posent ces questions-là ?
C'est pas seulement une impression. C'est une observation. C'est aussi une ouverture, en tout cas, sur un questionnement. C'est les pourquoi et les pourquoi et les pourquoi des enfants qui, là, sont sur un questionnement universel. Hein, parce que, ça, évidemment, l'infini, c'est l'infini de l'univers, c'est l'infini de la vie. Et les enfants ont une liberté aussi pour parler de ça. En tout cas, un réel questionnement. On l'a vu après dans le petit moment de discussion sur la deuxième représentation. On a pris le temps de faire ce petit moment de discussion avec un tout petit groupe d'enfants. Ce qu'on fait toujours dans les écoles, les lieux où on joue. Et ils vont quelquefois encore plus loin que, n'est allé Jon Fosse dans leur possibilité d'imaginer l'infini.
Alors qu'en pense justement l'interprète de ce personnage ?
Il en pense rien.
Je pense qu'il y a un géant qui rêve que...
Il fait des grands signes pour ne pas se rapprocher de la table et
en
du
fait,
micro.
En fait, il ne suivait pas du tout la conversation. Il était déjà parti dans un autre univers.
Il était en train de se dire, si je pouvais avoir une bière, là, ce serait sympa. Ils sont en train de boire autour de la table.
Voilà, par exemple. Ouais. Alors, un petit extrait de ce texte. Très beau, et peut-être un peu compliqué, mais très beau.
Je pense souvent à l'univers. S'il a une fin, ce n'est pas possible. Mais s'il n'a pas de fin, ce n'est pas possible non plus. Et ça me fait peur quand je pense à l'univers. Ce n'est pas possible que l'univers continue à l'infini, et puis ce n'est pas possible non plus qu'il ait une fin. Les deux sont possibles et ni l'un ni l'autre n'est possible. Et alors, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça me fait peur. Je pense souvent qu'il y a un géant là-bas dans l'univers. Il est si gros que personne ne le voit. Personne ne sait que le géant est là, mais le géant est là tout le temps. Et le géant dort et le géant rêve. Et moi, j'existe seulement dans le rêve du géant. Ça, je le pense souvent et ça me fait peur.
Papa, j'en ai marre des Teletubbies. Si on allait voir un texte de Nietzsche ce soir.
Non, mais je crois qu'on peut dire. Enfin, quelqu'un disait très bien, on peut parler de tout, mais pas avec tout le monde. Moi, je pense que justement, on peut parler de tout, surtout avec les enfants, et que c'est pas non plus en leur racontant des histoires bêtes ou en leur parlant comme une maîtresse de maternelle de temps en temps qu'on apprend à les faire grandir. Voilà. Non, mais parce que très souvent, c'est vrai qu'on simplifie le langage pour les enfants. Et je pense pas qu'en simplifiant le langage, on y gagne beaucoup. Au contraire, je pense qu'il faut leur parler comme on parle à des adultes. On parle aux enfants comme on parle à des adultes.
Alors Bénédicte Kouka est pas du tout d'accord, qui était enseignante en maternelle. Elle n'est pas d'accord, on l'a vu. Ah.
Mais Bénédicte, vous êtes d'accord avec moi que des fois, on infantilise, hein, dans la façon dont on s'adresse aux enfants. Il y a une infantilisation. Et moi aujourd'hui, je suis contre cette infantilisation.
On va poursuivre avec une autre compagnie. Il y a trois compagnies autour de la table. Il me semble, Guillaume, que c'est la compagnie Papyrus, c'est ça ? Qui va peut-être nous parler du spectacle qu'elle est venue présenter ici.
Oui, donc c'est moi. Mais, oui, c'est le spectacle qui s'appelle Haïku. Ben nous autres, on est là aussi, on est très contents d'être là parce que on a déjà, avec d'autres productions, joué beaucoup dans les FOL. Et par contre, depuis, je parle de 20-30 ans, hein, moi. Ça se voit pas. Hein. Mais personnellement, c'est la première fois où on a eu des spectacles qui sont venus, mais dont j'avais fait la mise en scène et pas dans lesquels je jouais. C'est la première fois que je suis à un spectacle en recommandé. Donc je suis extrêmement content parce que je rencontre plein d'organisateurs pour lesquels j'ai beaucoup joué et que j'ai pas vu depuis longtemps et tout ça. Donc c'est, pour moi, voilà, on posait la question, qu'est-ce que vous venez chercher ? Bien au-delà des contrats, même si on est évidemment très heureux si on tourne, hein, c'est certain. C'est toujours quand même la récompense du travail qu'on fait, hein, de pouvoir le montrer à des publics, et surtout le montrer à des publics dans un cadre de travail et qu'on apprécie.
Hein, de convivialité.
Oui, convivialité.
Non, de convivialité, mais aussi qu'on participe avec notre travail, au travail de certaines personnes, quoi. Je trouve que, enfin, moi, je préfère tourner. J'aime bien tourner pour les FOL. Moi, j'aime bien travailler dans les petites structures. On conçoit des spectacles, même si on amène des trucs. Vous allez voir, c'est parfois beaucoup de travail, quoi. Ne fût-ce que d'installer ce qu'on fait. Mais j'aime beaucoup jouer dans des petits lieux qui ne sont pas conçus nécessairement pour. Et j'aime ça, moi, personnellement, plus que de jouer dans des grandes structures, dans des grands théâtres où il y a tout. Et tout ça.
En plus, dans votre configuration de spectacle, il y a quand même un choix délibéré, bon, d'amener aussi vos gradins,
oui, bien sûr,
et d'avoir une proximité. C'est-à-dire que vous définissez, dans le rapport au spectacle, la distance entre votre travail, enfin, votre jeu et le spectateur, ce qui est quand même...
C'est-à-dire que quelque part, on essaye d'assumer que les conditions d'intimité qu'on cherche... dans une certaine mesure, on les prend en charge. C'est-à-dire qu'on vient monter notre gradin pour être sûr que le dernier spectateur, le 130e, il est à 2,80 m de ce qu'on montre. Mais non, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai joué une fois dans une salle où il y avait 8 sièges de large. Alors, 130 personnes...
Ça s'appelle un minibus.
Non, c'était une salle. C'était une salle qui avait été aménagée dans un bâtiment historique. Enfin, tu vois, on pouvait toucher à rien, mais et c'est très beau. Mais alors, avec les dégagements et tout, il restait 8 sièges. Alors 8 sièges, ça fait que le 130e spectateur, il est à 12 ou 15 mètres. Ici, nous, on arrive avec notre gradin. Bien sûr, on doit le monter, hein, mais le spectateur, il est à 2,80 m de ce qu'on montre. Donc, on se garantit une forme de puisqu'on veut faire du théâtre intimiste, parce que moi je dis toujours, plutôt on apprend dans les écoles qu'il faut projeter pour aller au dernier rang du spectateur. Mais moi je dis toujours, ce que j'aime bien, c'est que le spectateur vienne sur la scène avec moi. Et le spectacle que j'ai vu, toi qui jouais, c'est un peu ça. Je veux dire, c'est ça aussi, la façon dont tu parles, la façon dont on vient vers toi. Et moi j'aime cette forme d'intimité. Tu vois, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans cette forme d'intimité qu'on ne sait pas atteindre.
Mais surtout que dans votre forme, celle qu'on a vue hier, Haïku, c'est vraiment une grande intimité parce qu'on a, on a la fraîcheur de la glace, on a les gouttes d'eau qui tombent, on a vraiment des toutes petites choses très fines. Moi, j'étais extrêmement proche de vous parce que j'étais même assis par terre tout à fait proche à 50 cm. Et c'est vrai que c'était une expérience très, très intéressante parce qu'on découvrait ne serait-ce que l'araignée, la manipulation, on était vraiment pris dans cet univers et que ça, c'est nécessaire, cette proximité. Quoi.
Oui, oui.
Bah, comme tu dis, à 12 mètres, elle est impossible. Quoi. Oui, donc, c'est vrai que ce rapport est souvent compliqué au spectacle, suivant dans quelles conditions on tourne. Et que certains spectacles, pour qu'ils soient convenablement perçus, alors quels que soient les publics, enfants ou adultes, il faut essayer de mettre en œuvre ces conditions.
Alors ce que vous dites, de jouer cette appréciation, cette volonté de jouer dans des espaces confinés, je vous regarde autour de la table, vous paraissez d'accord, beurre d'olive et huile salée, avec cette volonté de jouer dans des espaces confinés et le plaisir que cela procure ?
Oui, pas seulement les espaces confinés, forcément, mais en tout cas, on acquiesçait particulièrement, en tout cas moi, sur le fait qu'on apprécie aussi beaucoup de jouer dans des endroits qui ne sont pas forcément conçus pour du spectacle, et d'aller amener ça dans des petites communes, dans des endroits où on n'entend pas forcément beaucoup de spectacles dans l'année, etc. Et c'est quelque chose qu'on aime particulièrement aussi. Ouais. Après, c'est vrai que le conte... cette idée de proximité du public.
Le conte en lui-même, c'est ça. C'est
quelque chose qu'on aime aussi cheminée, beaucoup. Par contre, nous, on n'a pas notre système de gradins. Et du coup, parfois, on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Mais on essaye toujours d'aménager le lieu au mieux pour être proche des gens et retrouver cette intimité-là aussi.
Alors, vous nous avez dit là, que finalement, vous aviez vu aussi le spectacle de l'autre compagnie. Est-ce que c'est finalement aussi un des intérêts de cette semaine que de voir des spectacles d'autres compagnies ?
Personnellement, j'ai hâte d'être ce soir et demain pour commencer à voir d'autres spectacles parce qu'on est arrivé hier soir et on a travaillé ce matin pour monter le spectacle, puis jouer cet après-midi et voilà. Là, je commence à savoir que je vais pouvoir partager les autres spectacles. Je reste jusqu'à vendredi midi pour tout voir. Parce que c'est vraiment... Oui,
oui, et moi, j'ai eu la chance de vous voir parce qu'on a terminé.
Ben oui, voilà.
Et vous ne nous avez pas vus parce que vous étiez en travail. Donc ça, c'est aussi... c'est aussi un des intérêts. Donc je disais que j'étais très heureux de rencontrer tous les organisateurs... que j'ai pas vu depuis longtemps ou même y en a que j'ai pas vu depuis longtemps et pourtant on y va dans 3 mois avec un autre spectacle et tout ça mais on est aussi content quand on peut voir le travail des autres et on n'a pas toujours l'occasion même dans les festivals parce que parfois on est reparti pour autre chose et quand on tourne c'est aussi ça l'intérêt et parfois c'est qu'on en voit qu'un ou deux, ce sera le cas pour moi parce que je suis reparti demain mais voilà, j'ai profité de cette rencontre. Voilà.
Alors on entend les artistes depuis tout à l'heure, peut-être avoir le point de vue d'un diffuseur de spectacle, justement Philippe Urbain, qui fait partie de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Comment ça se passe cette semaine ?
Bah, très bien. Voilà.
Vous avez vu de beaux spectacles ?
J'ai vu de beaux spectacles et je suis content d'être venu parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a quelques mois, Déborah et Fabienne m'ont contacté. Elles jouaient à grosso modo 20 minutes de voiture de mon bureau. Il a fallu que je fasse 7 heures de route et que je brave l'hiver pour voir leur spectacle. Donc c'est quand même un des intérêts. Non, mais au-delà de la boutade, c'est vrai que spectacle en recommandé, c'est quand même une concentration de spectacles pour tous les âges, avec des formes complètement diverses. Et c'est intéressant pour nous, qui faisons de la programmation, de pouvoir assister comme ça, dans un temps très court, à ces spectacles. Et ça nous permet, de repérer ce qui pourra servir pour la programmation future et pour nos projets.
Et alors, vous avez eu des coups de cœur dans ce que vous avez pu voir depuis le début de la semaine ?
Oui, il y a des coups de cœur, naturellement, mais tout ce qu'on voit est très bien. Il y a des spectacles. Après, effectivement, on a des coups de cœur, mais bon, la variété des spectacles fait que tout peut être coup de cœur à certains moments, en fonction de ce qu'on imagine après. Bon, c'est vrai que et c'est pas parce qu'elles sont là, j'ai apprécié les spectacles des artistes qui étaient autour de la table, mais pour des raisons différentes. Le petit violon qu'on a vu le premier soir, lundi, était un très très beau spectacle, très riche aussi, et je pense qu'on va en découvrir d'autres.
Oui, voilà. Parce qu'on n'est qu'à peu près à la moitié de la semaine.
Et oui, on a entamé la deuxième moitié, là, à partir de ce soir, avec Coco & Co. Voilà, qu'on va découvrir, donc, comme on le disait tout à l'heure, à 20h30, salle polyvalente à Marvejols.
Ce qu'on peut souligner aussi, peut-être, c'est l'intérêt du réseau et justement de cette rencontre avec les artistes, parce que c'est pas uniquement venir acheter des spectacles, remplir des grilles. Il y a tout cet échange qu'on peut avoir au moment des repas, des moments informels, qui nous permettent de construire, d'imaginer des choses. Et ça, c'est une partie un peu souterraine. On parlait du prix Annick Lanzmann. Nous, on est en réflexion à l'heure actuelle sur un travail qu'on pourrait mener avec nos amateurs dans notre région et comment on pourrait articuler ce prix. Voilà, on va profiter de ce moment-là, nous, pour aller voir Émile, voir comment c'est possible de mettre en place quelque chose ou d'imaginer d'autres projets avec des artistes à partir de choses qu'ils ont déjà créées ou même d'idées pour les mettre sur des idées de création. Et ça,
c'est ça. Éventuellement, il y a peut-être des projets, même si certains sont là pour promouvoir déjà des choses qui sont créées, peut-être qu'il y a des projets qui peuvent aussi naître de la rencontre, finalement, pour une résidence, pour plein de formes.
Je sais et j'imagine qu'il y a des tas de choses qui sont parties d'éditions de spectacles recommandés, de rencontres entre artistes entre eux.
Oui, c'est ça. Et puis même des rencontres entre artistes qui donnent après des coproductions ou des projets en commun. On en a eu quelques-uns. Ouais. Ça sert aussi à ça. C'est un échange, c'est un moment de réflexion, c'est aussi se poser. Et pour le faire, la Lozère est là et l'enchantement pour le faire. Parce qu'on est loin de tout, on est coupé un petit peu de tout et ça permet de se ressourcer et de rencontrer des gens et de partir sur d'autres aventures.
Oui, pour revenir là-dessus. C'est pas des choses nécessairement qu'on prémédite. C'est des choses qui, c'est parce que c'est des rencontres. Voilà, il faut pas venir en pensant est-ce qu'on pourrait faire une coproduction pour avoir de l'argent de ceci ou de je ne sais pas quoi. C'est des choses humaines aussi. C'est des rencontres humaines. Et si la magie opère, on a des choses magnifiques qui peuvent arriver. Et c'est aussi ça. Il faut laisser faire les rencontres, quoi. Et c'est des rencontres. Et quand ça se passe, c'est magnifique. Et puis voilà, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Par exemple, moi j'aime beaucoup le texte du Norvégien, mais je ne suis pas quelqu'un de texte, je suis quelqu'un d'image. Donc j'ai beaucoup aimé, je ne vous ai pas vu, excusez-moi, mais j'ai beaucoup aimé, d'abord j'aime bien la Norvège, et puis j'aime beaucoup, mais ce n'est pas directement mon univers, si tu veux. Donc peut-être que. Je ne sais pas si ça va se passer, mais c'est quoi ? C'est la rencontre humaine aussi, tu vois. Donc, et ça, c'est des endroits où ça peut se passer parce qu'on se croise, on se voilà.
Oui, la rencontre humaine, c'est un espace et du temps. Et ça, souvent aujourd'hui, on l'a perdu parce que par Facebook, par Internet, il faut vendre, il faut acheter, il faut communiquer. Ouais. Mais en fait, en voulant communiquer vite, on ne fait pas forcément.
Mais bien. C'est ça. Mais c'est aussi ça qu'on va transmettre aux spectateurs quand on va aller en tournée. C'est pour ça que moi j'aime bien. Vous avez une organisation formidable. Mais si je veux pas faire.
Voilà, mais donc.
J'aime beaucoup tourner dans les FOL parce que je viens de Belgique, donc on n'a pas cet équivalent chez nous. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de dynamique et d'intérêt pour aller partout essayer d'aller le plus loin possible dans les endroits où on ne va pas. Et moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Ça fait 38 ans que je fais ça. Et j'aime ça. Et donc, c'est trop tard pour changer.
Oui, moi, je confirmerais que c'est vrai. La forme est importante et ce n'est pas anodin, mais on vient parce que c'est sympa aussi. Il y a toujours des temps de convivialité qui sont prévus par les organisateurs avec des bouleversements à la marge. Là, on a eu des. Hier soir, on était en train de faire de la raquette. C'était super.
Pour nos auditeurs, ils sont quand même allés faire une balade en raquette à 22h30 sur le. 23h sur le plateau du roi à l'Aubert. Donc vous voyez, ils n'hésitent, ils ne reculent devant rien au niveau des activités conviviales.
Et ça rejoint ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'on a toujours la tête dans le guidon et c'est une bulle d'oxygène et c'est dans cette bulle d'oxygène qu'on va pouvoir faire les rencontres, imaginer des projets et aller plus loin. Voilà.
En tout cas, une chose que moi, je ne savais pas que j'allais trouver, c'est autant d'étonnement de ma part. Autant d'étonnement de ce que je vois, de ce que je comprends, de comment ça se passe, de qui est là, de l'engagement de chacun, de la dynamique, de l'énergie, de l'ouverture, de l'écoute. Depuis hier soir, je suis étonnée.
Voilà, c'est merci pour tous ces témoignages que vous nous avez apportés. Je pense qu'on a bien pris connaissance justement de cette diversité, de ce qui fait ces rencontres, cette vie, cet enrichissement finalement de gens différents aussi qui se croisent et qui effectivement échangent tout au long de cette semaine. Donc on se retrouvera bien sûr demain soir à 18h11 pour la dernière émission en direct. Vous pourrez également réentendre cette émission, celle de ce soir, demain à 12h30 sur 48FM. Vous pourrez également dès demain télécharger celle de lundi et celle d'aujourd'hui, et puis dès vendredi plutôt celle de demain soir. Voilà, on va vous rappeler effectivement le spectacle de ce soir, Coco & Co, 20h30, 5€, à partir de 6 ans à la salle polyvalente de Marvejols. Et on conclut comme lundi avec un petit peu le programme des actus de demain matin, dès 6h sur 48FM.
Oui, Guillaume, dès 6h demain, au sommaire des informations, le conseil municipal de la ville de Mende qui se réunit avec au programme notamment de la régularisation foncière, des modifications au plan local d'urbanisme ou des ventes au lotissement communal et au de la bergerie. Également, nous parlerons du lancement officiel de la 58e campagne de solidarité 2013 de la jeunesse en plein air. Le CFA Henri Girel de Mende qui, dans une démarche environnementale, se dote d'une machine de nettoyage du matériel de peinture avec deux interviews à ce sujet. Nous parlerons également d'initiative Lozère, une structure satellite de la CCI qui a accordé en 2012 195 000 euros de prêts d'honneur à des entreprises lozériennes. Et enfin, le retour au niveau 1 du plan départemental d'urgence hivernale au vu du radoucissement des températures. Également à noter ce soir, Guillaume, à 20h, dans Les Doigts dans la Reprise, Fab nous parlera du mythique concert de Bob Dylan à Manchester en 1966. Et l'émission sera suivie de la rediffusion du débat avec les organisations syndicales agricoles concernant l'élection à la Chambre d'Agriculture.
C'est une bonne soirée aussi sur 48FM. Et donc, pour tous ceux qui vont faire la route, entre Mende et Marvejols pour aller à ce spectacle, restez branchés sur le 94.1, hein, la fréquence de 48FM. Jusqu'à Marvejols, ça passera. Après, on aura un petit peu du mal. Mais normalement, pour à peu près toute la route, je la fais tous les jours. Donc, normalement, pour toute la route, vous pourrez entendre 48FM sur le 94.1. Donc, branchez-le bien sur vos voitures. Voilà. C'est terminé pour cette émission
de radio recommandée.
Un petit peu de musique et tout de suite après, vous retrouvez votre météo.
Théma.
Une émission de 48FM qui vous laisse la parole.
Écoutez l'essentiel, écoutez-vous
sur 48FM.
Former les gens un petit peu à réfléchir tout petit sur les spectacles et ne pas que les consommer, c'est quelque chose qui est très important.
Pour nous, effectivement, éduquer ce public sensible, c'est aussi éduquer ce que va être le public de demain sur la ville.
Je crois que dans l'éducation d'un enfant, il y a deux choses. Il y a les savoirs fondamentaux, voilà, c'est le rôle de l'école. Et il y a ce qu'on appelle l'éducation sensible. L'éducation sensible, c'est le rôle des artistes.
Radio recommandée.
Radio recommandée.
De prairies, de rivières et la joie des plaines, la chance bat des veines. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à l'appel. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière. Les bonheurs et les peines. J'ai bravé sans danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu, déçu ou même. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Derrière moi, abandonné mon cœur au désert, soumis mon corps aux tempêtes. J'ai misé sur demain, j'ai flambé mes dollars au poker. J'ai tout brûlé, mes amulettes. J'en ai pisté des canailles, des terreurs, la nuit à cheval. Sous la chaleur, sans éventail. J'ai croisé des pêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme. Et un héros sans défaut, sans faille. Que j'aime. Et la joie des plaines, la chance, la veine. Si le ciel ne